Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est les patrons. Demain, nous demanderons à rencontrer la patronne. Formation, parcours, exercice des fonctions. Nous entendrons des témoignages de jeunes femmes aux commandes. Mercredi, portrait théâtral et composite du feu grand patron de l'entreprise Apple, Steve Jobs, dans ses derniers jours. Et jeudi, c'est la vie après le patron ou tous patrons que nous évoquerons, notamment à travers une bande dessinée d'Aurel, avant vendredi de se demander comment les patrons sont représentés au cinéma. Aujourd'hui, ce sont eux, la France, l'argent et nous. C'est dans le générique du film de François Ruffin que le président directeur général du groupe LVMH est le plus visible. Par le truchement d'un masque incrusté, Bernard Arnault va à la plage, mange des frites, fait la fête, assiste à une réunion de rédaction de Fakir. Bref, il est là, au milieu des personnes que ses décisions impactent et importent. C'est d'autant plus remarquable que pendant le reste du film, il est invisible, représenté par un monsieur sécurité haut en verbe et costaud, mais lui, comme resté théorique. L'énonciation sous-jacente serait « J'agis sur le corps et la vie des autres, mais mon corps, à moi, se soustrait ». Le film Merci Patron raconte aussi ça. Des corps impactés par l'économie, au sens le plus concret du terme, et d'autres corps semblant évoluer dans un espace-temps qui les préserverait. Semblant, seulement. Depuis sa sortie en salle, le film a été vu par plus de 400 000 personnes. Il est 14h passé de 2 minutes. On le sent dès le lundi, c'est un thème qui mobilise physiquement. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Et les nouvelles vagues, ça passe par des corps, des vies, des individus, et ça fait quelque chose. En somme, nous demandons chaque semaine à quelqu'un de nous raconter des expériences qui lui ont fait quelque chose, qui ont laissé des traces. Annick Peigné-Julie se prête à l'exercice cette semaine. Elle est auteure, elle est ancienne journaliste, elle est directrice du festival Corsica Doc et de l'association Documentaire sur grand écran. Aujourd'hui, elle évoque le film de Claire Simon, Le bois dont les rêves sont faits, et plus spécifiquement la manière dont l'université de Vincennes existe en fantôme, l'occasion pour elle de parler de cet endroit où elle s'ouvre avec d'autres au savoir, à la culture et à une vie différente de celle de ses parents ouvriers. Récit vers 14h40. C'est donc le premier moment d'une semaine consacrée aux patrons. L'actualité ne manque pas de les mettre en scène, du moins les grands, ceux qui sont à la tête de groupes cotés en bourse ou influents sur le plan financier et médiatique. Pourtant, nous ferons en ce lundi un peu d'histoire contemporaine, nous éloignons en apparence du moins de la dite actualité. Le monde secret du grand patronat français évolue et se modifie au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, suivant une évolution plus générale du fonctionnement de la société, et le terme est volontairement large. David Servenet, vous êtes journaliste, vous avez co-dirigé l'ouvrage « L'histoire secrète du patronat français de 45 à nos jours, le vrai visage du capitaliste ». Le livre a paru à la découverte dans la collection Champs Libres et puis vous êtes entre autres co-fondateur de la revue Dessinée. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être là. Marion Rougier, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Vos recherches portent sur les femmes patrons, donc peut-être que vous serez encore là demain, du moins vente fantôme. Mais c'est aussi des recherches qui portent sur la représentation des patrons dans les organisations patronales et leur rôle dans les politiques publiques d'égalité professionnelle. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Alors, à la fois dans la conclusion ou l'introduction de votre thèse, vous remerciez toutes les personnes qui ont permis d'accéder à différents entretiens, à différents rendez-vous. Et dans la conclusion, l'introduction, je ne me souviens plus, David Servenet, du livre, c'est pareil, vous remerciez les personnes qui ont facilité les possibilités de mener des enquêtes. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué d'enquêter ou de faire des recherches sur ce milieu du grand patronat ? David Servenet.
C'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que nous, quand on a commencé à travailler sur l'ouvrage, on a fait une recherche bibliographique un petit peu, et on a vu qu'en réalité, il existait à l'époque, en tout cas, donc l'ouvrage a paru en 2009, relativement peu de travaux à la fois universitaires, dans le champ universitaire, mais aussi dans le champ dit journalistique, vous voyez, des enquêtes classiques. Le premier à s'y être intéressé, on va dire, dans l'ère moderne, c'est Henri Weber, qui, dans les années 70, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, d'ailleurs, pour approcher en quelque sorte un petit peu le patronat, est parti un petit peu en immersion. Il en a fait un livre assez intéressant où on commençait à sentir émerger un certain nombre de pratiques qui se formalisaient réalisé dans les années 70.
Du côté du grand patronat.
Du côté du grand patronat. Il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui, en général, sont assez laudateurs, voire hagiographiques, donc vraiment en défense du patronat. Enfin, c'est un peu défense, illustration du discours des patrons à travers donc des ouvrages de portraits, des choses comme ça. Et les premiers, enfin, en tout cas, encore une fois, dans le champ, on va dire, journalistique, médiatique, les premiers ouvrages un petit peu critiques ont commencé à émerger entre la fin des années 90, début des années 2000, avec des enquêtes, alors soit des espèces de monographies ou effectivement des enquêtes un petit peu transversales. Donc, d'une certaine manière, c'est simple parce que c'est un champ relativement vierge. Et c'est d'ailleurs ce qui avait motivé François Gèze, le patron de la Découverte à l'époque, pour partir sur ce projet d'histoire secrète du patronat, qui était l'idée de dresser une espèce de panorama assez large de l'évolution du capitalisme, de la libération jusqu'à l'époque contemporaine, parce que justement une synthèse comme ça manquait, enfin était absente un petit peu du champ éditorial.
Mais ça vous permettait aussi de vous dégager, d'être annexé à des affaires particulières, hein, parce qu'il y a aussi toute une tradition de publications qui sont écrites, mais qui sont très très liées à des affaires, à des scandales, alors là, ça balaye vraiment toute une période qui n'est pas nécessairement que attachée à cela.
Oui, tout à fait. Mais par ailleurs, le point que je voulais souligner en disant c'est simple et compliqué, c'est qu'en même temps, et vous l'avez effleuré dans votre introduction, c'est la thématique du double corps du pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pouvoir réel, et puis il y a un pouvoir apparent. Et le pouvoir apparent que laisse paraître le patronat ou les patrons, en général ne correspond pas vraiment à ce qu'est leur pouvoir réel. Et là, on rentre dans des stratégies, j'allais dire, de communication assez classiques, où en fait, ce qui nous est donné à voir n'est pas vraiment la réalité. L'histoire qu'on va nous raconter sur tel ou tel épisode, ou telle saga familiale, ou success story, comme on dit, est en réalité assez éloignée de la réalité. Voilà. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que là, on rentre dans une maîtrise, un contrôle de la parole, des informations, etc. Et qui continue aujourd'hui, hein. On l'a vu encore ces derniers mois au cours de tous les débats qu'il y a eu autour de la directive européenne en négociation sur le secret des affaires, le fameux secret des affaires. Donc, poussé par le lobby des patrons pour faire court, et qui poserait un certain nombre de restrictions au droit à l'information et au travail des journalistes, qui montre bien qu'il y a quand même une volonté dans le patronat d'une manière générale et chez certains patrons en particulier, encore une fois, de contrôler leur message.
Dans le patronat ou dans le grand patronat, ce qu'on appelle le grand patronat. C'est-à-dire quand on va parler d'ailleurs, la semaine est appelée les patrons, et évidemment, et ce sera aussi d'ailleurs peut-être la discussion tout à l'heure sur la question de la représentation, les patrons, c'est aussi le patron de la petite entreprise avec 4 salariés.
Oui, alors c'est traditionnel, je laisserai la sociologue répondre sur ce point, mais évidemment, l'image qui est donnée, par exemple, le discours du MEDEF, hein, du mouvement des entreprises de France, reflète assez peu l'ensemble du discours du patronat, c'est-à-dire de l'épicier du coin ou du gars qui a sa petite PME d'une dizaine de personnes. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et évidemment, celui qui a le plus de visibilité, notamment parce qu'il a une dimension politique qui est très importante,
et financière,
c'est celui des grands patrons, qui est souvent d'ailleurs assez éloigné, voire totalement contradictoire avec le discours des petits patrons.
Alors, qui sont les interlocuteurs, Marion Rougier, sur cette question-là? En effet, mener l'enquête qui est à la fois facile et compliquée.
Alors, je vous reprends simplement, je m'appelle Marion Rabier, je précise. Je suis d'accord avec David, c'est à la fois simple et compliqué de travailler sur le patronat. Compliqué déjà parce que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par patronat, on commence à le dire. Patronat, c'est à la fois l'ensemble numéraire des patrons. Et donc, c'est un groupe très hétérogène qui va, comme vous le disiez, du tout petit patron qui n'emploie éventuellement que lui-même, qui n'a même pas de salarié, est-ce qu'on est encore dans la définition du patronat, aux grands dirigeants du CAC 40. Et dans cette définition-là, les sociologues depuis longtemps ont cherché à travailler sur ce grand patronat à travers des sociographies pour établir quel était leur profil sociologique, leur trajectoire, les voies d'accès à ce grand patronat, comment ils accèdent à ces positions de pouvoir, comment ils s'y maintiennent. On travaille aussi sur les réseaux qu'ils peuvent former, etc. Mais patronat, ça renvoie aussi à un groupe mobilisé, un groupe qui a des porte-paroles, un groupe qu'on entend faire exister à travers donc plus plutôt les organisations patronales. Et là, pour travailler sur ces questions-là, ça nécessite plutôt de travailler par entretien, en rencontrant effectivement des représentants patronaux, des mandataires, des chefs d'entreprise qui adhèrent à ces organisations. Et ça, les sociologues s'y sont mis assez tardivement en France. Je pense que ça s'explique de plusieurs raisons. Déjà parce que l'urgence sociologique, c'est peut-être plutôt de travailler sur les dominants, enfin sur les dominés, pardon, que sur les dominants. Mais c'était aussi que le patronat a été longtemps fermé à l'investigation journalistique et sociologique. Il y avait de fortes réticences à parler, à dire ce que l'on fait, etc. Ça, c'est en train de changer. Aujourd'hui, l'accès à ces dirigeants est beaucoup plus facile. Mais ça reste compliqué pour le sociologue en raison de la position très asymétrique dans laquelle on se trouve. Et c'est difficile parfois d'arriver à s'imposer face aux imposants et arriver à mener l'entretien, arriver à le diriger pour obtenir les réponses qu'on souhaiterait avoir sur tel et tel aspect. Donc ça, c'est un vigne qui s'ouvre mais qui reste compliqué.
Elle vous semble asymétrique, pourquoi cette position ? Parce que vous avez l'impression, en tant que sociologue, y compris sur ce terrain de la recherche, de devoir pâtir ou en tout cas avoir vous positionner sur la dose de pouvoir et de pouvoir financier et de pouvoir médiatique qui est en face de vous.
Très objectivement, elle est asymétrique d'un point de vue économique. On est face à des personnes qui ont un capital économique extrêmement important, en tout cas beaucoup plus que le sien, et qui vont pouvoir donc en imposer par leur stature. C'est les Pinsent Charlot qui racontent comment la griffe spatiale joue à
plein. C'est donc un couple de sociologues qui travaillent plus généralement sur les élites économiques, on va dire, ou c'est
la bourgeoisie économique, et qui racontent comment mener enquête et se promener dans ces quartiers bourgeois en impose directement, effectivement.
Y compris dans le cadre de la recherche, vraiment.
Ouais, physiquement. Là, les corps sont vous lanciez là-dessus. Le sociologue doit se déguiser, endosser des habits respectabilité pour aller faire face à ses patrons. Et donc, on va dans des quartiers où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Et donc, tout en impose. Les boutiques de luxe, les façades d'immeubles, etc. Et tout ça rappelle la différence sociale, la différence de position sociale qu'il y a entre le chercheur en sciences sociales et le patron, la patronne qu'on a en face de soi. Ça peut se nicher dans des détails, des bijoux, les accessoires.
Bien sûr, et du coup, orienter à la fois le regard et les paroles échangées.
Tout à fait.
Dans les chapitres, vous signalez parfois ne pas avoir obtenu, ou au contraire, avoir obtenu des entretiens avec les interlocuteurs qui sont mentionnés. C'est quelque chose qui est quoi, 50-50 ? Parfois on vous dit oui, parfois on vous dit non ?
Alors, il y a eu des réactions assez étonnantes. Par exemple, Laurence Parisot, qui s'affiche régulièrement comme adepte de la transparence, de l'ouverture, de la communication, etc. Elle n'a jamais souhaité répondre à nos questions. C'est pas faute de l'avoir sollicité à de multiples reprises. Maurice Lévy, pareil, le patron de Publicis, qui est aussi une des grandes figures du patronat français.
C'était des entretiens sur leur parcours présentés comme tels, hein.
Non, c'était des entretiens dans le cadre de la réalisation d'un livre. J'imagine que avec tous les services communication efficaces qu'ils ont, ils ont dû nous googliser, etc. à l'époque, et ils ont dit non, on va pas répondre à ces gens-là. Bon, voilà. Et pour revenir là-dessus sur la question de la représentation, quand on parle du patronat, on fait très souvent référence au MEDEF, puisque le MEDEF s'exprime à longueur de temps, de colonnes, de journal télévisé, etc. Mais qui connaît la FEP? L'Association française des entreprises privées, qui est en quelque sorte la crème de la crème, le haut du panier du CAC 40, qui est véritablement l'organisme de lobbying très important du patronat, puisque en gros, c'est eux qui sont tout le temps au contact des politiques, qui vont travailler sur l'élaboration des lois, etc. etc. Personne ne connaît la FEP. Mmh. Voilà. Et ça, c'est très symbolique, encore une fois, de cette duplicité permanente entre une volonté affichée de transparence, mais par ailleurs une pratique du secret qui est très active.
Je suis candidat parce que j'ai un grand projet pour la Une et que j'ai trouvé des partenaires, tous des créateurs, de véritables entrepreneurs, partageant à la fois mon enthousiasme et ma foi. Et vous verrez que tous ensemble, nous avons des compétences, une capacité et une puissance qui font de notre groupement la plus grande force européenne de l'audiovisuel.
1987, enthousiasme et foi. du côté de chez Bouygues et le grand projet pour TF1. Alors, bon, c'est l'un des chapitres multiples de cette histoire secrète du patronat. On est dans le chapitre Le socialisme patronal 1980-1987 et vous écrivez avec d'autres combien ce tournant des années 80 est très important. Pourquoi et pourquoi la voix de Bouygues nous permet justement d'en dire un peu plus sur ce tournant-là?
Alors, c'est Francis Bouygues, hein, c'est le père de l'actuel, de Martin Bouygues. C'est intéressant parce que, à double titre. D'abord parce qu'en fait, tout le mouvement de libéralisation auquel on va assister pendant les années 80, à la fois dans le domaine de la radio et de la télévision, de la presse d'une manière générale, vient d'un positionnement en fait à front renversé entre la gauche et la droite. Si vous vous souvenez, avant l'élection de François Mitterrand, il y a tout le mouvement des radios libres qui émerge à ce moment-là. François Mitterrand comprend que pour se positionner par rapport à Valéry Giscard d'Estaing, il faut jouer la liberté. Donc le Parti Socialiste appuie le mouvement des radios dites pirates à l'époque, et en réclamant en fait la fin du monopole. Donc c'est une position finalement qui, d'un point de vue économique, idéologique,
est plutôt
libérale en fait. Là où, au contraire, la droite, elle s'accroche au maintien du monopole. Et en fait, ce qu'on va voir, donc François Mitterrand est élu, et alors conformément à ses 110 propositions, aux promesses qu'il a faites pendant la campagne électorale, il va effectivement libéraliser la radio, hein, en finissant par autoriser la publicité, ce contre quoi il avait dit, et Pierre Mauroy, qui était le Premier ministre à l'époque, disait qu'il n'y aura jamais de publicité sur ces nouvelles radios libres. Et évidemment, très vite, ça a cédé, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se développer sans publicité. Et puis alors, dans le domaine de la télévision, tout ça va obéir au rythme de la vie politique, c'est-à-dire que les privatisations à ce moment-là vont se faire au rythme de la cohabitation et des changements de majorité. Hein. En 86, la droite arrive au pouvoir. Et là, il y a toute une lutte entre la gauche et la droite pour prendre le contrôle, en fait, de ces nouvelles télévisions. Alors, Canal Plus a été créé juste avant, donc la fameuse quatrième chaîne. Puis il va y avoir la 5 et la 6. Et effectivement, la Une est privatisée en 87. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que là Francis Bouygues dit on a des créateurs, des entrepreneurs, on a un projet formidable, etc. Mais en réalité, Bouygues, à l'époque, ne connaît rien à la télévision.
Et il n'est pas le seul, c'est ce que vous écrivez. C'est-à-dire que tous les grands patrons qui vont s'intéresser au milieu médiatique ne connaissent absolument rien à ce domaine-là.
Absolument. Ce sont des industriels donc du BTP qui viennent de la distribution d'eau, enfin bref, d'autres secteurs, des secteurs industriels. Mais tous comprennent à ce moment-là, ils ont tous compris en fait la leçon, ce qui est un peu une leçon de mai 68 aussi, qui a compris le patronat, c'est-à-dire que l'information devient quelque chose de stratégique, y compris dans les relations que ces gens-là ont avec l'État, parce que très souvent, ils travaillent sur des secteurs industriels où la commande publique est très importante. Et pour avoir prise en quelque sorte, pour avoir prise sur le monde politique, sur le personnel politique, il est important d'avoir à sa disposition des groupes de presse, une chaîne de télévision, parce qu'on va avoir un accès direct avec ces décideurs politiques.
Alors c'est parce qu'ils comprennent que les décideurs politiques vont faire de la télévision leur nouvelle passion, voire leur nouvel objet de gouvernement, que eux, ils veulent être dans cette passion gouvernement, qu'ils en passent par la passion médiatique.
Exactement. Et tout l'aspect, quand il dit on a un formidable projet, etc., il faut quand même se souvenir qu'au tout départ, pour l'État en tout cas, la privatisation de TF1 devait obéir à une entreprise culturelle. Ça devait être une entreprise culturelle. Et très vite, évidemment, ça va déborder parce qu'on se rend compte, ils le savent très bien, les gens qui arrivent dans les wagons de Francis Bouygues, tous les professionnels pour le coup, Étienne Moujotte, etc., ou Patrick Lelay aussi, qui est un ingénieur au départ, c'est pas du tout quelqu'un qui vient de la télévision, comprennent très vite que il va falloir aller sur du divertissement, en gros de la télé plus ou moins de mauvaise qualité, parce que ça fait de l'audience, et qu'en faisant de l'audience, on fait de la publicité, et qu'avec de la publicité, on a des revenus.
Voilà. Mais alors, le rapprochement avec le personnel politique qui est visé par, gros, ce coup de filet sur les chaînes télévisées, fonctionne ?
Oui, ça fonctionne, parce qu'il y a un précurseur dans le domaine, c'est Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère, quand il prend la main du groupe Matra dans les années 70, il hérite d'Europe 1. Et avec Europe 1, donc, qui est la radio qui est le rendez-vous des politiques tous les matins, il a très vite compris que en étant capable de croiser toute la classe politique le matin autour de l'interview matinale, en gros, il se fait désobligé de toute cette classe politique, et qui vont ensuite le favoriser dans toutes ses affaires industrielles, et notamment toute l'industrie de l'armement. Et donc, tous les patrons au fur et à mesure, les grands patrons qui vont s'intéresser à la presse, aux médias, vont avoir exactement les mêmes objectifs. C'est-à-dire que bien souvent, c'est pas l'intérêt des médias en eux-mêmes. D'ailleurs, en général, ils mettent peu la main dans ces affaires-là. Ils ont d'ailleurs souvent des idées qui sont pas très originales ou innovantes, et ça leur coûte de l'argent. Mais en même temps, ça représente un fort pouvoir de nuisance, par exemple. Voilà. Ou alors, on peut faire avancer ses idées à certains moments. C'est par exemple un exemple qui était très frappant au moment de la campagne présidentielle en 2007. Serge Dassault, donc le patron de Dassault, qui est le nouveau patron du Figaro, écrit un éditorial le 2 janvier 2007 pour souhaiter ses meilleurs voeux à ses lecteurs. Et il dit dans cet éditorial, et c'est écrit en gros en capital dans l'éditorial, « Je suis pour une rupture totale ». C'est-à-dire qu'il est plus sarkozyste que le candidat Sarkozy qui prône juste une rupture. Lui, il dit « Je suis pour une rupture totale ». Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il faut entendre ? Ça veut dire que ce tournant-là des années 80, et donc un peu hein, quand même très vite dans les années 90, c'est que ça décloisonne. Il n'y a plus de frontières entre d'un côté l'industrie, d'un côté la politique, de l'autre côté des entreprises médiatiques. D'un seul coup, tout ça est assez poreux.
Alors, je pense que le rapprochement... se rapprocher du personnel politique par les médias date pas forcément des années 80. Il y a toujours eu des patrons qui ont acheté des groupes de presse, etc. Ce qui change, c'est peut-être en plus grande quantité. Les patrons ont aussi influencé depuis longtemps la politique, ne serait-ce qu'en finançant les campagnes électorales, par exemple, ou en cherchant eux-mêmes à être élus et à faire partie du personnel politique. En outre, la question de l'accès ne veut pas forcément dire l'influence. C'est deux choses relativement différentes.
Intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une action pour l'accès, mais ce n'est pas forcément un accès qui veut dire une influence ensuite.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, l'influence, c'est quelque chose un peu compliqué hein, pour les sociologues. On a un peu de mal avec ça parce qu'on a vraiment du mal à l'objectiver. Avoir accès à quelque chose, ça veut pas forcément dire qu'on va réussir à l'influencer ou à avoir une action concrète qui va permettre que ça aille dans notre sens.
En revanche, désirer avoir accès à quelque chose dit quelque chose.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas forcément de causalité et c'est surtout éviter la tentation de la collusion et d'une espèce d'élite indifférenciée, la théorie du complot. Quoi, hein. On essaye au contraire de montrer que c'est pas exactement la même chose, même s'ils peuvent occuper des positions dominantes. Et d'ailleurs, ils se croisent avant de se croiser dans les médias, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait les mêmes grandes écoles. Ils sont issus des mêmes milieux sociaux. Et donc, la question de l'influence, elle est aussi compliquée parce qu'il y a des réseaux qu'on a du mal à objectiver qui sont ces réseaux de grandes écoles, mais aussi ces liens familiaux, ces liens de camaraderie.
Ça précède etc. largement les accessions, diverses accessions au pouvoir, d'ailleurs à la direction d'une entreprise ou à la direction d'une chaîne. C'est bien en amont, quand on parle de grande école, on parle de quoi ?
On parle essentiellement des grandes écoles type ENA, Polytechnique, les grandes écoles d'État qui forment à la fois les hauts fonctionnaires et à la fois les grands patrons. Hauts fonctionnaires qui peuvent aussi devenir des patrons lorsqu'ils pantouflent. Donc on voit qu'il y a une circulation depuis longtemps entre la sphère économique et la sphère publique par justement des trajectoires où on peut passer de l'un à l'autre, qui peut expliquer qu'il y ait des fois donc des visions du monde, des connaissances des choses communes qui sont liées à leur formation et au fait qu'ils soient multiples positionnés dans l'espace social à différents moments de leur trajectoire.
Et un partage des codes. Tout à l'heure, vous disiez l'une des délicatesses du travail de recherche, justement, quand vous vous intéressez en tant que sociologue au grand patron, c'est de ne pas en maîtriser certains des codes qu'impose notamment le patrimoine économique. Là, d'un seul coup, bien en amont de ces moments décisionnels, il y a un partage des codes qui est un grand patrimoine.
Tout à fait, c'est un grand capital,
un
très important qui marche à plein, un capital social donc par les réseaux et un capital culturel par donc ces diplômes et un capital symbolique de fait puisque on est issu des mêmes écoles prestigieuses et décoré des légions d'honneur, etc. Plein d'occasions de se croiser.
Ouais, il y a une particularité dans le patronat français, c'est le règne de ce qu'on appelle les grands corps, hein, c'est-à-dire que non seulement c'est faire certaines écoles, écoles, mais au sein de ces écoles, de faire partie de l'élite des promotions de ces écoles. Donc il y a les X-Mines, polytechniques, qui font ensuite le corps des mines, qui règnent en maître sur toute une partie de l'industrie française. Vous avez l'inspection des finances aussi, qui est donc la botte de l'ENA, hein, donc les 10 premiers, il me semble, qui sortent de chaque promotion de l'ENA, qui vont ensuite à Bercy, passent effectivement quelques années, et à partir de la fin des années 80, où ils comprennent qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire dans le privé qu'en restant dans le public, notamment, on pourra y revenir, parce que les rémunérations s'envolent à ce moment-là. À ce moment-là, ces réseaux sont extrêmement actifs et efficaces, y compris pour convaincre à un moment donné une majorité dans le personnel politique, et droite et gauche confondues. Hein, on n'est pas sur une logique de ce point de vue-là très, très idéologique, ou plutôt tout le monde finit par avoir la même idéologie après les années 80. Ça va favoriser un certain nombre de mouvements, par exemple les privatisations. Les privatisations, on le voit bien dans l'histoire des privatisations, c'est enclenché au départ
des grandes entreprises.
C'est enclenché par la droite, mais la gauche ne reviendra jamais dessus. Et même au contraire, la gauche va accentuer le mouvement au fur et à mesure sur une vingtaine d'années.
Et là, on peut voir le lien de causalité tout de même que vous remettiez éventuellement en question tout à l'heure. C'est-à-dire que quand même, il y a un moment donné où il y a un effet de ce rapprochement, justement, du poids où il y a à la fois extrait des mêmes corps d'élite d'État, dès qu'ils vont être à Bercy, dès qu'ils vont être à la tête des grandes entreprises, dès qu'ils vont pouvoir peser sur certaines décisions.
Non, je le traduirais vraiment pas en termes de causalité. L'influence, elle est relativement diffuse, en fait. C'est ça qui est compliqué, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à l'objectiver. C'est diffus, ça joue à toutes les échelles, ça joue pas forcément que à l'échelle...
Il n'y a pas une force agissante, secrète, qui avancerait d'un même pas.
Et c'est pas forcément une influence directe de « je vais lui amener l'amendement clé en main et hop, celui-ci va être repris ». Parce qu'il y a des moments où, même au sein du patronat, il y a des forts conflits entre eux sur certains enjeux. Certaines franges du patronat ne vont pas être tout à fait d'accord sur la loi travail. On a entendu des positions différentes du MEDEF et de la CGPME, par exemple. La CGPME disant non, mais cette loi ne va pas concerner les petits entrepreneurs, par exemple. Donc, c'est difficile de penser qu'il y aurait donc une collision des élites, même si il y a effectivement la défense d'intérêts et certains intérêts sont partagés par différentes fractions de cette élite.
Ce que nous souhaitons, nous, c'est que l'entreprise cesse en France d'être un objet politique, c'est-à-dire que les forces politiques organisent des débats autour des questions qui concernent les Français et qu'on laisse l'entreprise concurrentielle qui est à l'heure actuelle exposée à la concurrence, qui est insérée dans l'Europe, qui a toutes ses contraintes, pouvoir, bien entendu, se développer sans en permanence être contrôlée, administrée ou imposée. Mais quand on dit « nous ne souhaitons que nous ne soyons plein d'objets politiques », il y a même une attente quelque part, une attente plus forte qui fait que nous souhaiterions que le monde des entreprises soit encouragé, soit soutenu. Et c'est le cas en Angleterre. Quand Tony Blair a cette phrase extraordinaire « il faut qu'un peuple aime ses entrepreneurs comme il aime ses footballeurs », il exprime quelque part l'idée selon laquelle on ne peut plus, dans le monde dans lequel nous entrons, croire qu'un peuple peut réussir, qu'un pays peut réussir, sans avoir ces nouvelles relations de confiance, de partenariat, de soutien, d'encouragement au monde des entreprises, que ce soit les petits entrepreneurs, les start-up, mais aussi les grandes entreprises, et aucune raison d'ailleurs de faire ce type de distinction.
Alors on notera l'étonnante récurrence quand même de la référence au football et à l'amour dans les différentes archives qu'on a écoutées pour l'émission d'aujourd'hui. Ici c'est la voix de Denis Kessler dans l'émission Rue des Entrepreneurs. On est en 2001, c'est-à-dire il y a 15 ans. Vous dites tout à l'heure, David Servenay, que se rejoignent peut-être dans une forme de confusion, plein de personnes dans une même idéologie. Ce serait le tournant idéologique évoqué ici par Denis Kessler, d'un rapprochement avec un modèle anglo-saxon très libéral, hors politique, hors État.
Ah bah oui, d'autant plus que si je faisais un peu de mauvais esprit, je dirais que lui, il en est le deus ex machina.
En tout cas, c'est ce que vous laissez entendre dans votre livre.
Denis Kessler, il a quand même un parcours assez étonnant. Hein. Il fait HEC, il est Mao à l'époque, très proche de Dominique Strauss-Kahn, universitaire brillant, chargé de recherche au CNRS, et puis à un moment donné, dans les années 90, il bascule dans le champ champ de l'entreprise. Il va devenir patron de la Fédération française des sociétés d'assurance, qui est l'organisme de lobbying des assureurs. Et à ce moment-là, il va produire tout un discours et une pensée de la vision de l'entreprise dans la société qui est totalement en rupture avec la tradition française. C'est-à-dire qu'en France, on est sur l'héritage du Conseil national de la Résistance, d'un pacte social entre les gaullistes et les communistes à l'époque, mais en gros, qui dit, voilà, laissez les entrepreneurs agir, mais laissez aussi une place au syndicat, à la négociation sociale, et dans un système de protection sociale, la sécurité sociale, etc., tel qu'on le connaît. Et lui, il dit, en fait, avec l'aide d'un philosophe qui s'appelle François Ewald, qui a été le secrétaire de Michel Foucault à une époque, qui dit, voilà, l'État ne doit plus être un réducteur de risques, mais au contraire, il doit être un producteur de risques. Et je vous lis une citation de Denis Kessler, parce que je trouve qu'elle est très éclairante. Il dit, le secteur de l'assurance est un formidable balcon sur le monde, la vie n'est que risque et gestion de ce risque. Je ne suis pas d'accord avec Freud, qui dit que le principe de plaisir est l'explication de nombreux comportements humains, c'est le principe de sécurité. Il suffit de voir le succès des thèmes sécuritaires développés par les politiques. Au fond, ils font notre métier. Bon. Et ça, c'est intéressant parce que là, on voit bien qu'il réarticule la relation qui peut exister entre les politiques et les patrons.
Et les footballeurs.
Et les footballeurs aussi. Et la place de l'entreprise, en fait, la vision qu'on peut avoir de l'entreprise dans la société. Et c'est une manière, en fait, de poser l'entreprise comme quelque chose de central dans le fonctionnement de la société, encore une fois. Et en tant que gestionnaire de ces risques. Hein, il dit, la société se divise entre les riscophobes et les riscophiles. Et en gros, si vous êtes riscophile, c'est mieux parce que voilà, vous êtes dans cette dynamique de l'entrepreneuriat, etc.
Et alors là, qu'est-ce qui est premier, pardon, mais c'est, si on est à un tournant qui est culturel et idéologique, ce qui est premier, c'est que d'un point de vue politique, on va vers une gestion du risque et les gouvernements deviennent des gestionnaires du risque, et donc, par conséquent, les entreprises et les chefs d'entreprise sont aussi cela et se retrouvent dans un climat ou un biotope favorable à cela, ou est-ce que d'une certaine manière, c'est un tournant qui prendrait davantage sa source dans le milieu d'entreprise et qui influerait sur des politiques économiques, des politiques idéologiques plus grande échelle.
Partant plutôt sur la deuxième option, mais en fait, là où il y a une espèce d'entourloupe, si vous voulez, c'est qu'à certains moments, quand des mouvements font état de très grandes pertes, à ce moment-là, on va mutualiser les pertes. C'est l'exemple des crises des subprimes, par exemple, la grande crise économique de 2008-2010, où on dit la faillite de Dexia, par exemple, la banque Dexia des collectivités locales, où on dit il y a une énorme perte, et c'est les pouvoirs publics qui vont intervenir, qui doivent prendre en charge en fait la gestion de ce risque. A contrario, quand il y a des bénéfices, alors à ce moment-là, ces bénéfices sont entièrement privatisés. Et là encore, on va le voir dans le système des privatisations. Par exemple, quand Dominique de Villepin privatise les autoroutes en 2005, les autoroutes fonctionnent très bien, sont même plutôt des vaches à lait. Pourquoi l'État ne les garde pas à un moment donné ? Parce que les politiques vont faire un cadeau au secteur privé, qui va être d'ailleurs très, très profitable. Et c'est là où, si vous voulez, il y a encore une fois, il y a une espèce d'entourloupe ou de renversement, parce que tout le monde est convaincu du bienfait de cette idéologie et personne ne vient la remettre en cause, quoi. Et c'est là où ça pose un problème parce que finalement
tout le monde est convaincu dans une certaine frange de la société française.
Oui, en tout cas les politiques de droite comme de gauche et les grands patrons de droite comme de gauche. Encore une fois, personne ne songe à remettre en cause ce modèle. On l'a entendu encore dernièrement. Enfin, on le voit pas mal depuis 5 ans. Enfin, depuis l'élection de François Hollande, il ne me semble pas que la finance soit devenue l'ennemi du gouvernement.
Je le dis et je l'assume devant vous et au-delà de vous, devant nos compatriotes. La France, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous. La France a besoin de ses entreprises. J'aime l'entreprise, l'institution qui arrive en tête. Dans toutes les enquêtes d'opinion, ce sont les PME et les PMI, là où travaille l'immense majorité des salariés. Il n'y a pas d'emploi sans employeur. C'est pourquoi il est absurde de parler de cadeaux faits aux patrons. Ce langage n'a aucun sens.
Trouble Sound est la voix de Manuel Valls s'exprimant devant le MEDEF en 2016 avec cette formule « Je le dis et je l'assume, j'aime l'entreprise ». Alors Manon Rabier, on est là dans le cadre justement de ces groupes de représentation patronale qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette phrase prononcée, dans ces quelques phrases prononcées par Manuel Valls, et pourquoi est-ce que ça a son importance ?
Alors moi, ce que j'entends avant tout, j'aime l'entreprise, c'est que c'est un slogan qui a été inventé par une organisation patronale, en l'occurrence Éthique, qui est dirigée par Sophie de Menton et qui a lancé depuis quelques années des campagnes de communication et de publicité autour de ce slogan. C'est une marque déposée aujourd'hui, j'aime l'entreprise, j'aime ma boîte. Elle organise des grandes campagnes de communication autour de ce thème-là. Donc je vois
elle-même chef d'entreprise.
Elle-même chef d'entreprise, bien sûr, et dirigeante patronale.
Reprenant un slogan dit Yvon Gattaz dans les années 70.
Tout à fait. Et donc, on voit bien comment le fait de remettre l'entreprise au centre des préoccupations, qui est un travail entrepris par les organisations patronales depuis longtemps, a quelques succès, en tout cas dans le discours médiatique et politique. Et tout à l'heure, on parlait donc justement de comment on passe finalement de patronat à entreprise, et ce changement est assez important et marqué très symboliquement en 98 avec la création du MEDEF. On passe du Conseil National du Patronat Français au MEDEF, Mouvement des Entreprises de France. Donc on abandonne le Conseil pour passer au mouvement, on est en marche, sans jeu de mots, sans référence à l'actualité.
En même temps quand même.
Et on abandonne le patronat pour parler de l'entreprise, des entrepreneurs. Et aujourd'hui...
Qu'est-ce que ça change quand même là, d'un point de vue du langage? C'est pas rien. Le patronat pour aller vers l'entreprise et les entrepreneurs.
C'est justement essayer de masquer certains rapports, certaines luttes des classes. Hein. C'est essayer d'effacer ce stigmate, enfin ce qui est vécu comme tel par le patronat, pour au contraire retourner le stigmate en quelque chose de valorisé, valorisant, que sont les entrepreneurs, la liberté d'entreprendre, la réussite économique, etc. Donc on est vraiment dans un tournant symbolique très important qui montre ce travail entrepris par ces organisations patronales.
D'où la référence à la population française, aux enquêtes de popularité. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'entreprise est testée politiquement comme un objet qui peut être populaire, et ce n'est plus la personne du patron et l'ensemble du patronat qui se retrouve dans une sphère politique, dans une sphère idéologique propre à être critiquée ou pourfendée ou en effet contre lesquelles on pourrait lutter. C'est aussi ça qui bouge.
Oui, tout à fait. Et ces sondages sont aussi commandés par les organisations patronales elles-mêmes, justement, qui visent à mesurer leur popularité ou qui visent à mesurer et à faire émerger ces questions-là pour que derrière ce soit repris, commenté, que ces sondages soient commentés et donc fasse exister ce sentiment positif à l'égard de l'entreprise.
Alors tout à l'heure, David Servenet disait on connaît bien le MEDEF, on connaît peut-être presque que elle en termes d'organisation de représentation représentation patronale. Pourtant, ce n'est pas la seule. Quels sont leurs rôles à ces organisations-là ?
Alors effectivement, on connaît essentiellement le MEDEF, et encore le connaît-on mal. On connaît encore moins la CGPME, qui s'occupe donc des PME. On connaît aussi moins l'UPA, des artisans. Pour les citer toutes, il y a aussi l'UNAPL, qui est l'organisation patronale des professions libérales, et encore la FNSEA, l'organisation patronale des agriculteurs, qui sont donc à L5, les cinq organisations patronales représentatives des employeurs en France, et qui siègent à ce titre dans les négociations collectives au niveau interprofessionnel.
Et alors, quand on parle de représentation, ça veut dire, par exemple, sur un plan sociologique, qu'il y a des correspondances intéressantes entre les gens qui représentent, qui ont la parole, qui vont négocier, et le patronat français, alors là, pris, j'imagine, dans sa masse la plus grande, même si tout le monde ne cotise pas et tout le monde n'adhère pas, j'imagine.
Ouais, c'est compliqué, le système d'adhésion aux organisations patronales. En fait, ce sont pas les chefs d'entreprise qui adhèrent à une organisation patronale, ils affilient leur entreprise, déjà. Et ensuite, ils adhèrent donc localement au MEDEF territorial, par exemple, et à leur fédération de branches, par exemple. Et ensuite, ces fédérations elles-mêmes adhèrent aux organisations interprofessionnelles. Et donc, in fine, indirectement, un patron peut voir son entreprise adhérer à la fois au MEDEF, à la fois à la CGPME, voire à l'UPA. C'est comme si un salarié était syndiqué à la fois à Sud et à la CFDT, ce qui nous paraît assez
Parce qu'il y a, des différences idéologiques ou des positionnements politiques si divers à l'intérieur des organisations.
Alors peut-être pas aussi différents que Sud et la CFDT, mais néanmoins, oui, il y a des positions patronales très différentes sur la question du 15% pour la formation, sur les fonds de formation professionnelle, par exemple. Il n'y a pas exactement le même type de prise de position. Et nous, on a essayé de travailler sur justement qui étaient ces représentants patronaux. Alors en l'occurrence, on a travaillé avec Étienne Pénissa sur les présidents des fédérations du MEDEF pour essayer de voir quel était leur profil. Et on s'aperçoit que, comme dans toute organisation politique, évidemment, les représentants ne sont pas tout à fait à l'image des représentés. Et qu'il y a une distorsion, en fait, entre ceux qui ont la
parole. Crise de représentation aussi chez les patrons.
Oui, tout à fait. Avec les mêmes mécanismes, les représentants sont à la fois plus masculins que la population qu'ils représentent, à la fois plus âgés, des origines sociales beaucoup plus élevées. Ils dirigent les entreprises d'une taille plus importante que les gens pour lesquels ils prennent la parole.
David Sarbanet.
Oui, pour compléter, faut quand même dire un mot des fédérations patronales. Parce qu'en fait, le MEDEF, si vous voulez, si j'osais la comparaison, c'est un peu la holding de tête, hein, voilà, qui est une holding visible, mais qui n'est pas forcément la plus active en termes de production d'un savoir, d'une pensée cohérente et d'un lobbying aussi très présent.
Y compris sur le terrain des négociations politiques.
Absolument. Il y a quatre fédérations qui pèsent très lourdement. Il y a l'UEMM, la première, l'Union de la Métallurgie, donc ça, si vous voulez, c'est l'industrie lourde, hein, vieille représentante, qui est la plus importante en termes de production, notamment sur tout ce qui est droit social. Voilà, donc tout... Dès lors qu'il est question de négociations sociales en France, l'UEMM, c'est une fédération qui est très importante, tout simplement parce que d'abord, elle a des effectifs assez nombreux avec les meilleurs juristes qui vont préparer en amont la production de la loi, la production de la norme. Vous avez à côté deux autres fédérations qui sont très importantes et qui sont représentatives de ce mouvement néolibéral, que sont la Fédération française de la banque et la Fédération française des sociétés d'assurance, qui en gros symbolise le capitalisme à l'anglo-saxonne incarné par Denis Kessler qui arrive en 98 dans la roue d'Ernest Antoine Seyer et au moment où le CNPF devient le MEDEF. Et puis vous avez aussi la Fédération française du bâtiment qui est aussi importante et qui elle aussi représente, on va dire, une industrie un peu plus traditionnelle. Et toutes n'ont pas exactement le même positionnement et les mêmes intérêts à un moment donné, notamment dans les rapports avec les politiques. Par exemple, à un moment donné, à partir de 98, en gros, le discours dans le patronat, c'est de dire l'industrie, c'est mort, c'est terminé. C'est la fameuse phrase de Churuc, il n'y a plus d'usine, désormais je dirige un groupe sans usine. Voilà. Et puis, on va en revenir via notamment Arnaud Montebourg et son grand discours sur la réindustrialisation. Et là, on voit bien que il y a un positionnement qui est un petit peu différent. Et ce qui explique sans doute en partie pourquoi le représentant du MEDEF aujourd'hui est quelqu'un finalement, Pierre Gattaz, qui est donc un héritier, c'est important, donc le fils d'Yvon Gattaz, qui est patron d'une grosse PME et en même temps converti à l'idéologie néolibérale. Donc c'est une espèce de bonne synthèse, si vous voulez, du secteur traditionnel et de ce discours néolibéral qui motive tout le monde et qui soude un petit peu tout le monde.
Oh, le standard, merde! Allô? Oui? Oui? Oui, on est là. Oui, il peut nous appeler, On est là. Entendu, merci. Qui c'est? La nana de l'accueil, elle va nous passer Bolloré. Et Bolloré qui va nous appeler. Mais on n'a rien fait.
Ah, mais non, qu'on n'a rien fait.
On n'a rien fait de ça. Je pensais jamais que je serais dans le charter, une pauvre secrétaire de rien du tout.
Tu crois que c'est à cause des stylobies que j'ai volé?
Mais évidemment, il fallait pas les voler, ces stylobies. Ça creuse le budget d'une chaîne. Lui, il fait ses calculs, il pense qu'à ça.
Mais c'est journaliste.
En plus, je suis sûre qu'on est filmé dans cette foutue boîte, c'est la Stasi. L'esprit canal, le temps du parles.
L'esprit canal commenté par Catherine et Liliane dans un sketch où elles sont appelées finalement par Barnabé et non par Bolloré pour évoquer cette figure de grand patron tellement présente dans l'espace médiatique. Alors est-ce que c'est le fruit de quoi? Une fascination de l'espace médiatique pour ses propres grands patrons? Comment ça se fait qu'ils sont tellement là? Lui en tout cas. David Sarbenet.
Oui, il y a sûrement un peu de c'est la circularité de l'information. Les journalistes s'intéressent à l'actualité qui les intéresse eux et pas les autres.
Je vous coupe, mais quand Catherine et Liliane disent ils ne pensent qu'à ça, sans préciser ce à quoi, c'est quoi? C'est l'argent? C'est l'influence? C'est la présence médiatique?
C'est sans doute parce que dans sa trajectoire, Vincent Bolloré, il est arrivé à un moment où il ne peut plus faire sans. En quelque sorte, sans les médias et sans une représentation médiatique importante. Mais encore une fois, on en revient à cette question de l'articulation entre le monde politique et le monde des affaires. Vincent Bolloré, il a beaucoup d'affaires en Afrique, par exemple, où le poids du politique est très important, et il n'est pas anodin pour lui d'avoir, via Canal+, notamment, une sorte de levier, de barre sur la classe politique pour entretenir de bons rapports qui vont faciliter ses affaires en Afrique.
Voilà. C'est aussi simple que ça?
Bah, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, du
Mais
travail d'influence.
C'est assez grossier au final. C'est assez grossier au sens où, au sens où c'est très visible. C'est-à-dire que si les ficelles sont aussi simples et aussi grossières que cela, comment ça se fait que c'est possible?
Mais parce que d'une certaine manière, c'est aujourd'hui ancré dans les mœurs. C'est-à-dire que plus personne ne songe à remettre en cause cette idée que finalement la décision politique résulte aussi de ce petit jeu d'influence. Il est tacté, il est même en général souvent assez explicite. Nous, on en parle dans le livre sur les officines de communication, de gestion de crise, Anne Méo, Michel Calzaroni, etc., les faiseurs de deal en quelque sorte, tous ces gens-là, ils ont une existence y compris médiatique aujourd'hui, pour peu qu'on s'y intéresse, et ils apparaissent encore une fois dans la mécanique de la fabrique du pouvoir et des affaires.
Est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'on entre avec la figure de Vincent Bolloré dans un autre âge que celui qu'on a décrit précédemment depuis le début de l'heure, Marion Rabhi?
Alors c'est difficile chaque fois de procéder par rupture et coupure. Moi, je pense que
d'autant que c'est pas un nouveau-né sur la scène.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je pense qu'on est beaucoup plus dans des. Faut se méfier du constant renouveau et des. Donc on est plutôt dans des phénomènes diffus qui se construisent sur le long terme. Et là, par contre, effectivement, en s'emparant d'un certain nombre de médias très emblématiques et qui essayent de se défendre et essayent de porter cette parole, ça prend peut-être effectivement un peu plus d'importance sur la scène médiatique actuelle, et on en parle un peu plus. Mais encore une fois, il ne s'agirait pas de résumer toute l'influence à l'accès médiatique. C'est quelque chose qui existe sur différentes échelles, un peu partout, et de façon des fois moins visible et moins caricaturale, et peut-être tout aussi efficace.
Un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever.
C'est un cri sourd, le bruit des outils sur l'écrou. Un chant à l'unisson, une cour d'usine qui se tient debout. Messieurs, sciez les porte-drapeaux, rompez le garde à vous. Le salaire de la peur, c'est juste un garde-fou. Ça vient qu'un petit homme, un boutiquier de la poussière. C'est juste un nom pour un coup de gomme sur un classeur Excel. Posons des clous sur la table pour l'ultime bras de fer. Y'a des cailloux au fond du plat, soyons jeteurs de pierres. C'est le forçat qui se libère, c'est la révolte contre le père. C'est être prêt de ne plus se taire et de tout perdre. Je tresse des ponges, pète les plombs ou jette l'éponge. Mais je brise le moule et son modèle car ce n'était pas les bons. C'est l'invisible vendeur de roses, le corps social qui se nécrose. C'est le patron sur un trône en carton. Méfiez-vous de ceux que l'on traite comme des bêtes. Prenez garde, ils pourraient bien mordre la main du maître.
Derrière les portes de l'usine, ça sent le soufre et la mitraille. Sens-tu le souffle de la rue, la clameur camarade. C'est rien qu'un petit homme avec des chiffres dans la tête. Avant de vivre le grand soir, mordons la main du maître.
Offre-moi le gîte et le couvert, rassure-moi. Être à moi lorsque je désespère. Transmets, puisque tu as le pouvoir entre les mains. Que puis-je faire si ce n'est boire tes paroles en attendant le refrain. Étoffe ton discours, opère vite, évite de me laisser faire. Reprends vite goût à la liberté, c'est vrai que je pourrais m'y faire. J'ai tout gardé en tête, les caresses et les coups de laisse. Les récompenses, les remontrances, quand j'ai déçu maîtresse. Chacun dans sa niche et les pitbulls seront bien gardés. Je sais plus si tu me veux du bien ou si tu veux juste me domestiquer. Plus ça va, plus je te regarde d'un autre angle. Mes certitudes s'écroulent, j'hésite des fois à ramener le boomerang. Y'a forcément un soumis, y'a forcément un dominé. S'il y a des cases, alors dans laquelle m'as-tu placé? J'entends des voix et elles me crient, putain prospère. T'es l'obstacle à mon émancipation et aussi mon repère. J'imagine le pire, que le sang coule, il me faut un prêtre. Car aujourd'hui j'ai décidé de mordre la main du maître.
La main du maître, c'est un morceau que vous avez amené avec vous. Marion Rabier, vous nous dites en deux secondes ce que c'est?
C'est un collectif de slammers, 129 H, qui a écrit autour d'un texte de Jacques Prévert, Citroën, qu'il écrit en 33 pour le groupe Octobre, qui est un groupe qui allait faire du théâtre ouvrier dans les usines en grève. Et je trouvais que c'était un joli clin d'œil aujourd'hui où on fête le Front Populaire en 2016, de voir comment des slammers se réapproprient des textes comme ça.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
14h51 sur France Culture, à cette heure-ci, le patron, c'est l'émotion. Chaque semaine, nous demandons à quelqu'un de raconter des moments qui ont marqué son parcours. Cette semaine, c'est Annick Peigné-Julie qui fait cet exercice pour nous. Elle dirige le festival Corsica Doc et l'association documentaire sur grand écran. C'est justement un film qu'elle décide d'évoquer pour commencer. Un film de Claire Simon, Le bois dont nos rêves sont faits.
Un film que j'ai trouvé très très intéressant, de par les rencontres que Claire Simon fait à l'intérieur d'un lieu qui est à la fois très réel, un lieu géographique très délimité, en même temps qui ressemble à un lieu imaginaire, le bois comme une espèce d'inconscient de la ville. Et dans ce lieu, elle a à un moment donné fait surgir un fantôme qui est la faculté de Vincennes, qui a existé de 68 à 78 dans ce lieu. Et pour moi, ça a été un petit choc parce qu'il n'y avait pas vraiment d'image de la fac de Vincennes, vraiment très, je dirais, très documentée. Là, c'est juste le cours de Gilles Deleuze. Et le surgissement comme un fantôme à l'intérieur du bois de ce qu'a été la fac de Vincennes avec cette immense remue-ménage politique et culturel que j'ai vécu à l'époque. Moi, je suis rentrée à la fac de Vincennes juste après 68. Ça m'a vraiment semblé très, très juste comme manière de le montrer parce qu'aujourd'hui, ça ressemble effectivement à une sorte de fantôme d'un mouvement qui a eu lieu. Et voilà, je trouvais cette manière de le montrer assez juste. Et c'était la fille de Gilles Deleuze, Émilie Deleuze, qui essaye de retrouver dans les lieux ce qui s'est passé à l'époque. C'était extrêmement troublant pour moi, très très fort. parce que j'en ai pour moi des souvenirs extrêmement importants, parce que je sortais du bac, et évidemment fille d'ouvrier, donc je me suis retrouvée à la fac avec toute cette génération qui avait accès, génération de jeunes, disons de classe plutôt prolétaire, qui avait accès pour la première fois à l'université. Donc il y a de mai 68 là-dedans, c'est-à-dire une espèce de remue-ménage incroyable et d'espoir, de côté extrêmement mal élevé d'une certaine manière. Il y avait à l'époque, enfin, je me souviens que à l'époque il y avait à peu près 200 jeunes maoïstes qui faisaient la loi dans la fac, et que pour moi ça a été la possibilité d'imaginer une autre manière de penser, une autre manière d'appréhender aussi la culture et l'enseignement. Et d'une certaine manière aussi, ça m'a ça a restitué une forme de dignité, de légitimité à la classe d'où je venais, parce que la fac de Vincennes était ouverte aux non-bacheliers, à des gens aussi qui pouvaient pas faire des études dans la journée mais qui venaient le soir. Donc moi, ça m'a permis de travailler et de faire des études en même temps. Donc tout ça s'est mêlé et m'a extrêmement conforté dans mon idée de l'avenir possible pour moi.
هي اللي فاتني انا لازم سميع ربي اللي كتبها ليا هي المرة المتالية هي اللي فاتني انا لازم سميع ربي اللي كتبها ليا هي اللي فاتني انا لازم سميع ربي اللي كتبها ليا
Robin avec Medina Souli et leur projet Tadziri qui présentait l'année dernière à Arles dans le cadre du Festival des Suds. Magnifique projet avec ce titre La femme idéale, c'est vous, David Servenet, qui avait demandé d'entendre ça. C'est pour faire la transition avec l'émission de demain sur les chefs d'entreprise.
Ah bah si vous le dites.
Non, pourquoi vous vouliez entendre ça?
Non, parce que pour un lundi de Pentecôte, c'est bien Titi Robin.
Merci en tout cas David Servenet d'avoir été avec nous. Vous avez co-dirigé, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire secrète du patronat à 45 à nos jours, le vrai visage du capitalisme français aux éditions La Découverte. On peut dire que le co-directeur autre était Benoît Colomba et cité Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznec. Merci beaucoup à vous Marion Rabieb. Vous nous écouterez demain ou peut-être vous passerez un petit coup de fil, parce que voilà, vos travaux portent sur la place des femmes dans tout ce monde du patronat, mais aussi dans les organismes de représentation. C'est pas dit que, je sais pas, par la voix de la pensée ou du vrai téléphone, on vous passe pas un petit coup de fil, sinon on invite les gens à aller vous écouter. En cours, les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui, ça se réécoute sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur ce même site et aussi nous écrire et nous vous lire, on peut le faire via Facebook et Twitter. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron qui sont les copatrons de cette émission. Il imagine avec moi, elle est réalisée par Somanina. Merci à Michael Simon et Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Aux manettes, aujourd'hui, c'était Dophard Guéride, au droit d'auteur Victor Button. Dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange en compagnie des auteurs.